Le H2O Show avec Franco Huard.
Alors, nous sommes de retour sur les ondes de Radio H2O.ca ainsi que Radio Noir 24/7 et Radio La Salle 100,1 FM. Et je suis cette fois-ci avec mon cher ami Daniel. Salut Daniel.
Hello.
Good. Hey, excellent. Et nous recevons aussi M. Léo Bureau-Blouin, âgé de 20 ans. Il a terminé le 1er juin dernier un mandat de 2 ans en tant que représentant de la FEC, soit la Fédération étudiante du Québec. Il se lance en politique comme candidat péquiste dans la circonscription de Laval-des-Rapides. Alors, bonjour M. Bureau-Blouin et merci d'être parmi nous.
Bonjour, c'est un plaisir.
Alors, la première question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à faire un saut en politique québécoise?
Bien, c'est que tout d'abord, à travers mon engagement étudiant, j'ai réalisé que des milliers de personnes avaient perdu confiance en la politique, perdu confiance que les gouvernements pouvaient être des catalyseurs de projets collectifs. Et aussi parce que, d'un point de vue plus personnel, il y a un moment où on veut que nos convictions, les valeurs qu'on a en tant qu'individu deviennent des réalités, deviennent des politiques publiques. Et donc, j'ai trouvé que la politique québécoise et que le momentum politique qu'on avait actuellement était une bonne occasion de non seulement contrer le cynisme dont je parlais précédemment, mais aussi de faire en sorte que les projets qui me tiennent à cœur deviennent des réalités.
OK. Et on a entendu parler, je crois, un peu avant la campagne électorale, on parlait du comté, je crois, de Trois-Rivières. Mais pourquoi avoir choisi Laval-des-Rapides par après?
J'ai choisi la circonscription de Laval-des-Rapides parce que il y avait déjà un candidat, en fait, dans cette circonscription qui était M. Marc Demers.
Oui.
Mais M. Demers a pris contact avec moi et il m'a proposé de me laisser sa place dans cette circonscription. Et donc, suite à ce geste-là, j'ai accepté.
Parfait. M. Bourgouin, je voulais juste une couple de questions de ma part. Benoît Maron a récemment déclaré qu'elle vous trouvait trop jeune pour être pas de ministre. Est-ce que ça vous dérange, ces propos-là? De deux, est-ce que vous croyez qu'il y a un âge minimum pour être ministre? Puis finalement, y a-t-il déjà un poste au gouvernement, autre que député dans lequel vous voyez déjà en fonction?
Ben, tout d'abord, je me lance pas en politique nécessairement pour être ministre ou quoi que ce soit. Je me lance parce que je pense qu'il y a une occasion quand on forme le gouvernement de faire bouger des choses, d'amener des projets, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité. Et je pense bien sûr que j'ai beaucoup d'étapes à franchir pour gagner la confiance des électeurs, mais aussi gagner la confiance d'un futur gouvernement. Pour ce qui est des rôles que j'aimerais jouer au sein du gouvernement, ben, assurément un rôle sur les dossiers jeunesse, sur l'éducation postsecondaire, mais il y a aussi beaucoup d'autres enjeux qui me tiennent à cœur, que ce soit par exemple la lutte à la pauvreté ou les grands défis qui nous attendent par rapport à la préservation de l'environnement. Et donc, je pense que même en tant que député, on peut jouer un rôle très important là-dessus. Mais surtout, je pense que la priorité, c'est de représenter les gens de la circonscription.
Oui, effectivement. Excellent. Et mais justement, vous parliez un peu aussi du conflit étudiant, en fait, du mouvement étudiant. Admettons, disons, que vous êtes élu et que le Parti québécois gagnait les prochaines élections. Celui-ci se retrouverait avec le mandat de régler la crise étudiante actuelle. Donc, selon vous, quelle serait votre implication dans ce processus?
Bien, le Parti québécois a déjà annoncé qu'il tiendrait un sommet sur le financement et la gestion des universités québécoises. Donc, assurément, j'entends jouer un rôle pour rassembler les gens autour de ce sommet, pour lui conférer la crédibilité dont il a besoin. Le Parti québécois s'est également engagé à abolir l'augmentation des droits de scolarité et abolir la loi spéciale. Donc, je pense qu'il s'agit de gestes assez forts qui vont permettre, je pense, de rétablir la paix sociale et surtout de garantir que l'éducation au Québec va rester abordable.
OK. OK. Oui, allez-y. Vas-y, Daniel.
Non, je suis... l'autre question qui suivait, en fait, c'était, admettons que vous n'étiez pas élu dans votre comté, est-ce que vous accepteriez quand même un mandat de la part des associations étudiantes ou du gouvernement d'agir en tant que médiateur pour aider à régler le conflit?
Ah, assurément. Je vais toujours être disposé à jouer un rôle si c'est ce qu'un futur gouvernement veut pour régler cette crise, parce que je pense que c'est important qu'on puisse continuer d'avancer comme collectivité et surtout je pense que qu'on soit d'accord ou pas, les étudiants ont quand même démontré que c'est important d'être à l'écoute des jeunes, que c'est important de faire attention à l'éducation, mais je pense aussi qu'il faut s'assurer qu'on puisse retrouver la paix sociale.
Mm-hmm. Ouais. Justement, c'était Ben, c'est un excellent point que vous apportez parce que, depuis les dernières années, on parlait souvent aussi que les jeunes, n'ont pas... Le taux de participation des votes des jeunes a diminué vraiment significativement. Et là-dessus, je voulais savoir, puisque le taux de participation aux élections au Québec a baissé en moyenne de 10 à 15 % de 2003 à 2008, selon les circonscriptions, la différence fut énorme, surtout lors des élections de 2007 et 2008. Donc, le taux de participation dans Laval-des-Rapides était de 55 % en 2008, alors qu'il était à 70 % en 2007. Et ces informations-là, d'ailleurs, sont publiques via le site web d'électionsquebec.qc.ca. Donc, selon vous, qu'est-ce qui explique cette différence-là?
Bien, c'est sûr qu'en 2008, il y avait eu plusieurs élections rapprochées, donc qui créaient peut-être un momentum qui était moins propice ou une fatigue un peu à l'égard des élections. Mais surtout, je pense qu'il y a le fameux cynisme dont on parle, et peut-être qu'il est galvaudé, mais reste qu'il existe. Là, il y a beaucoup de gens qui perdent confiance en la politique, qui ont l'impression de se faire rouler à travers les différentes campagnes électorales. Mais ce qui, moi, me surprend et me rend très enthousiaste face à la campagne électorale de 2012 au Québec, c'est que les gens s'y intéressent, les gens posent des questions, les gens veulent participer. Et bien sûr, je suis pas devin, mais je pense qu'on peut s'attendre à un taux de participation plus élevé. Et je pense que ça enverrait aussi un message positif parce qu'enfin, on verrait la courbe du taux de participation augmenter au Québec parce qu'on peut pas se permettre de perdre encore 5, 10 ou 15 % de taux de participation en devise de la crédibilité de notre système démocratique qui est en jeu.
C'est effectivement le cas. Et la preuve, je crois, c'est les deux dernières partielles qu'on a eues. Hein. Les deux dernières partielles, les derniers mois, on a eu un taux de participation, je pense, dans un comté environ de 25 % et l'autre d'un peu plus de 40 %, ce qui était quand même assez bas.
Ah, tout à fait, et c'est très inquiétant. C'est pour ça qu'il faut être à l'affût. Par exemple, moi, c'est sûr que j'ai une sensibilité particulière pour le taux de participation des jeunes. Il se situe environ à 40 % au Québec en 2008, mais dans la circonscription où je me présente de Laval-des-Rapides, on parle de seulement 20 % de participation chez les 18-24 ans. Donc, moi, je me suis donné un peu comme défi d'augmenter ce taux de participation. On a, par exemple, envoyé une lettre à tous les nouveaux électeurs en 18 et 21 ans pour s'assurer qu'ils connaissaient la procédure électorale, qu'ils savaient comment voter, parce que des fois, on prend pour acquis que tout le monde sait comment ça fonctionne les élections au Québec, mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quelle est la procédure, qu'ils vont recevoir une carte d'électeur, qu'ils n'ont pas besoin de payer pour voter. Des choses, des fois, qui peuvent nous paraître très, très banales, mais on se rend compte des fois qu'on part de loin.
Oui. C'est bon, ce que vous avez pris d'avance, c'est ce que je voulais vous demander. Croyez-vous que les jeunes vont être plus motivés à voter en plus grand nombre le 4 septembre prochain?
Je le crois. C'est sûr que on peut s'attendre quand même à un taux de participation peut-être inférieur à la moyenne nationale, mais j'ai la conviction que le taux de participation des jeunes sera plus élevé qu'en 2008, surtout avec tout le travail qui est effectué par les différents partis politiques, le travail du directeur général des élections. Plusieurs organismes comme l'Institut Nouveau Monde ont mis en place des partenariats avec le directeur général des élections pour cibler particulièrement les jeunes électeurs. Donc, je pense que tous ces efforts vont porter fruit.
Et oui, effectivement, la campagne actuelle du directeur général de l'élection, les vidéos sont assez populaires sur YouTube, entre autres, ça fonctionne bien. C'est un bon départ, en fait.
Ah, tout à fait, et je pense que ce genre de démarche, il faut continuer de les encourager, continuer de les stimuler, parce qu'on ne peut pas laisser le train passer et s'attendre à ce que les choses se règlent par elles-mêmes. Une autre des propositions du Parti québécois que je trouve intéressante, c'est de mettre sur pied des bureaux de vote dans les cégeps et les universités pour rapprocher les lieux de vote des étudiants, parce qu'une des problématiques... Une des problématiques, c'est que, par exemple, certaines personnes qui habitent dans la grande région de Montréal et étudient, par exemple, à Jonquière, en journalisme, ou encore en Gaspésie, en tourisme, et donc ils n'ont pas le temps, le jour de l'élection, de redescendre jusque dans leur circonscription. Et le vote par correspondance, c'est très complexe. Et donc, je pense que si on mettait des bureaux de vote et on permettait de voter hors circonscription, par exemple, à Gaspé ou à Jonquière pour ces étudiants, ça pourrait faire une différence.
Ouais.
Selon vous, pourquoi M. Charest aurait-il choisi le 4 septembre comme date d'élection?
Ben, d'abord, il y avait assurément une volonté de régler le plus rapidement possible le dossier de la crise étudiante. En même temps, il y a également la commission Charbonneau dont les travaux vont débuter vers la mi-septembre. les partis comme le Parti libéral craignent beaucoup les révélations de cette commission. Donc, en tenant une élection avant le début des travaux, ça permet d'éviter ce type de scandale. Donc, je pense qu'il y avait un momentum. Je pense pas que c'est nécessairement une décision à prendre de mauvaise foi, mais c'est sûr qu'il y a un calcul politique derrière ça.
Mais vous trouvez pas quand même que... Si on regarde les coïncidences, on parle des Olympiques qui est quand même vu par au-dessus d'un milliard de personnes sur la planète. On parle bon des vacances de la construction, donc très peu de gens étaient quand même au courant. Vous trouvez pas quand même que c'est un peu rapide les élections durant l'été?
En effet, c'est pas l'idéal. Hein, et c'est parfois difficile parce que beaucoup de gens sont en vacances lorsqu'on fait du porte-à-porte. Beaucoup de gens reviennent de leurs vacances cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, certaines personnes vont avoir manqué la moitié de la campagne électorale. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas du tout un scénario qui est idéal. Le mois d'octobre ou novembre, je crois qu'il reste toujours le meilleur moment. Et c'est pourquoi on propose notamment l'instauration d'élections à date fixe qui permettrait d'éviter un peu la loterie des élections, là, où on ne sait jamais si il va pas. On joue un peu à cache-cache en ce moment.
Exactement. Donc, vous allez un peu dans le même sens que M. Jean-Martin Hossan, le chef d'Option nationale, justement, qui parle d'avoir des dates fixes au Québec, là.
Oui, je pense que c'est nécessaire. C'est un engagement du Parti québécois et de plusieurs autres partis. Si on veut avoir des élections qui sont sérieuses, si on veut avoir un processus démocratique où on n'a pas l'impression que les citoyens sont pris dans un cirque politique, je pense que c'est nécessaire. Et même si la démocratie américaine est loin d'être parfaite, je pense que les élections à date fixe permettent d'avoir des campagnes électorales qui durent un peu plus longtemps, qui permettent au débat de durer et surtout qui font en sorte que la population peut se préparer à ça.
Oui. Oui. Et selon vous, là, on vous pose la question mystère, là. Quel est le rôle d'un député selon Léo Bureau-Blouin?
Ben, le premier rôle d'un député, je crois que c'est d'être à l'écoute de la population. Moi, ce que j'entends souvent quand je discute avec les gens, c'est on me dit, les députés, ils votent des grandes lois à l'Assemblée nationale, ce qui est bien, mais lorsqu'il vient le temps de faire une différence dans le quartier, dans la région, là, on a l'impression que c'est plus difficile. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rôle de proximité du député. Si on veut redonner confiance aux gens envers la politique, je pense qu'il faut créer cette relation de proximité. Et je crois que le second rôle de député, bien sûr, c'est d'agir de manière responsable pour prendre des décisions pour l'ensemble de la collectivité. Parce que trop souvent, les députés ne prennent des décisions que pour leur électorat, alors que je crois que le rôle du gouvernement, le rôle d'un député, c'est de réussir à passer au-delà de la partisanerie.
Excellent. Et admettons, là, disons que, bon, Pauline Marois se prononce contre une initiative, mais que dans Laval-des-Rapides, la majorité de la population est en faveur de cette initiative. Puisque vous êtes leur représentant, tiendrez-vous tête à votre chef de parti?
Ah, écoutez, ben, chaque situation est différente, hein. Et le Parti québécois, c'est un parti qui est un parti de débat. Donc, moi, je suis confiant que s'il y a une forte proportion de la population de Laval-des-Rapides qui est en faveur de quelque chose, ben, il y a fort à parier qu'une importante proportion de la population de d'autres circonscriptions le sont également. Et je pense que dans ce type de situation-là, on peut provoquer un débat au sein d'un parti politique et adopter une position qui est consensuelle.
C'est donc que, justement, le 2 dernier, tous les députés libéraux qui étaient présents en chambre ont voté en faveur du projet de loi 78. Je pense que vous étiez là à ce moment-là.
Oui, exactement. J'étais à
l'Assemblée nationale. C'est maintenant connu comme étant sous la loi 12 maintenant. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils étaient tous en faveur du projet de loi ou si c'est quelques-uns ou plusieurs d'entre eux qui ont ressenti une obligation de se conformer?
Ah, il y avait assurément un malaise chez certains députés libéraux qui croient que la loi 12, le projet de loi 78 va trop loin, il va trop loin dans la restriction des libertés civiles, mais le Parti libéral, c'est un parti qui est très serré, où le droit de dissidence n'existe pas. Et je pense que parfois, c'est dangereux parce que ça mène justement à des dérapages. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut trouver un juste milieu entre la ligne de parti, parce qu'il faut qu'on fonctionne, il faut qu'on avance, il faut qu'on fonctionne en équipe, mais il faut aussi quand même être à l'écoute des jeunes.
C'est un peu pour ça qu'on voulait savoir votre position en tant que représentant. Qu'est-ce que vous croyez que le député devrait faire s'il est redevable à sa population, à ses constituants ou à son chef? Quelle priorité qu'il a en premier et quelle il devrait mettre de l'avance pour ça?
Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, encore une fois, parce que c'est un parti politique. Oui. C'est une équipe et quand même, on se fait élire sous une bannière, on se fait élire sous un programme, mais on est en effet très redevable face à la population, celle qui nous élit. Et quand même, oui. C'est assez rare habituellement qu'il y ait des contradictions flagrantes entre le programme du parti sur lequel les gens votent et l'opinion qui peut être changeante de la population, mais je dirais que c'est vraiment au cas par cas.
Qu'est-ce que vous croyez que va être l'impact de la crise étudiante actuelle sur les élections, vos prédictions?
Je crois que la crise étudiante a fait déjà sentir ses impacts dans la mesure où le débat sur les droits de scolarité et les jeunes est un des débats importants de cette campagne électorale. Cependant, étant donné que de plus en plus de collèges et d'universités choisissent de voter pour des trêves électorales, donc pour un retour en classe en attendant des élections, je pense qu'on peut s'attendre à ce que les autres sujets, comme par exemple la corruption, comme le bilan des libéraux en santé ou en éducation, prennent une place importante.
Puis, j'ai noté aussi que, bon, vous avez déclaré publiquement que vous ne porteriez plus le carré rouge parce que, de toute façon, on connaît déjà votre position sur les frais de scolarité. Donc, puisque l'image en politique compte beaucoup, croyez-vous que l'impact de l'absence du carré rouge sur votre veston aura des chances, plus de chances d'être élu, finalement?
L'objectif de retirer le carré rouge, c'est d'abord de marquer une transition aussi entre un représentant étudiant et un candidat pour une circonscription d'un parti politique. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'avec ou sans carré rouge, je suis en mesure de défendre l'éducation abordable, je suis en mesure de défendre les valeurs que j'ai portées comme représentant étudiant. Maintenant, à savoir si ça va avoir un impact dans l'urne, je ne pense pas.
Oui. C'est un petit peu plus long, c'est là, entre 95 et entre 1995 et 2007, c'est un petit peu plus touché, c'est que, on a constaté avec ses amis que Pauline Marois avait quand même changé 4 fois d'idée sur les frais de scolarité, qu'elle s'était prononcée aussi en faveur d'une plus grande contribution financière de la part des étudiants avant de devenir chef du Parti québécois à ce moment-là. Mais là, je sais que vous avez parlé aussi de la position du gouvernement du Parti québécois, mais, ça a aussi été proposé d'indexer les frais de scolarité selon le coût de la vie. Normalement, ce que ça me semble être, un peu à mon avis, c'est une position qui est d'apparence conciliante. On dirait qu'on essaie un peu d'aller chercher plus de votes que possible et de s'appeler au plus de temps possible. Vous, en tant qu'ancien leader étudiant de la SEC, et maintenant comme candidat du Parti québécois, vu qu'on connaît votre position sur les frais de scolarité, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez choisi le Parti québécois.
Ben, j'ai choisi le Parti québécois parce que je partage les valeurs qui sont défendues dans le programme, que ce soit l'indépendance du Québec, que ce soit la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la lutte à la pauvreté et aussi l'éducation. Mais il y a en effet les hommes et les femmes politiques, ça leur arrive de changer d'opinion, de changer de vision selon le contexte. Et souvent, on associe ça beaucoup à de l'opportunisme ou à des leaders qui ne sont pas assez forts, mais je pense que parfois aussi, il faut au contraire reconnaître et saluer le fait que les leaders politiques acceptent qu'ils n'ont pas toujours raison. Et dans le contexte de la crise étudiante, le Parti québécois a quand même toujours été à la défense des étudiants, ils ont quand même toujours soutenu. Et je pense que en élisant le Parti québécois, on ne réglera pas tous les problèmes, mais on a quand même la chance. Les jeunes et une part importante de la collectivité québécoise qui croit un Québec plus progressiste de mettre fin là, aux 9 ans de règne libéral et d'avoir un gouvernement qui est un peu plus à l'écoute de la population. Et les grands changements de politique publique, les grandes réformes au Québec quand même, elles ont été faites par les libéraux au début des années 60, mais surtout par le Parti québécois, qu'on pense à la réforme du financement des partis politiques, qu'on pense à la Société de l'assurance automobile, qu'on pense à des grandes réformes également en éducation, les centres de la petite enfance. Ce sont souvent, toujours le Parti québécois qui a été derrière ça. Donc, je pense quand même que encore aujourd'hui, c'est un parti qui est à la défense de monsieur et madame tout le monde.
Ouais. Dans le contexte, en fait, de la gratuité scolaire, je voulais vous demander pourquoi vous n'avez pas préféré choisir Québec-Solidaire ou Action nationale, parce que pour eux, il semble plus clair qu'ils fassent une promotion sans ambivalence de leur gratuité scolaire. Je me serais attendu à plus vous voir dans un de ces deux partis-là.
Ben, l'objectif quand même d'un parti politique et d'un gouvernement, c'est, comme je le disais préalablement, de faire progresser les choses, de trouver des consensus et la gratuité scolaire, je pense pas que c'est exclure. Ça va notamment faire partie des discussions au sommet du Parti québécois, mais ça ne semble pas être une position qui rallie une majorité de la population pour l'instant et en ce sens-là, je pense que c'est important d'aller vers des consensus et de mettre de côté, des fois d'accepter de mettre de côté un peu les convictions les plus profondes ou en tout cas de trouver un terrain d'entente pour faire en sorte qu'on puisse continuer. Moi, je pense que la priorité, que ce soit gratuit ou pas, c'est vraiment que ça reste abordable et je pense que dans le cadre d'un dans le cadre d'un sommet, on va être capable de parler aussi de plus que les droits de scolarité, mais d'une politique sur le logement étudiant, des bonifications à l'aide financière, aux études, tous ces éléments qui font en sorte qu'on bâtit une véritable politique qui favorise l'accès aux études et la réduction de l'endettement.
Mmh. Oui, parce que présentement, dans les médias, on entend principalement parler de la crise étudiante au cours des élections, mais il y a tellement bien plus que ça, là, c'est que justement...
Ah, oui, en effet, il y a beaucoup plus que les simples droits de scolarité. C'est sûr que ça a monopolisé le débat parce que ça a été l'élément déclencheur de la crise étudiante, mais la raison pour laquelle les associations étudiantes tiennent à ce point à maintenir abordable le droit de scolarité, c'est entre autres parce que c'est un des seuls leviers sur lesquels le gouvernement a un contrôle avec les prêts et bourses pour garantir l'accès aux études. Mais un gouvernement audacieux pourrait, par exemple, réfléchir, comme je le disais, à des façons de garantir des logements abordables pour les étudiants, ou en tout cas des façons de contribuer au paiement du matériel scolaire spécialisé, et toutes sortes d'éléments qui font une différence dans le budget et qui permettent de favoriser notamment pour les gens démunis de la classe moyenne de se rendre jusqu'à l'université.
Oui, effectivement. Là, si on change de cap rapidement pour notre dernier segment, vous vous présentez contre Alain Paquet dans la Val-des-Rapides. Pensez-vous avoir des bonnes chances d'être élu?
Je crois avoir des bonnes chances d'être élu si je continue un travail à tous les jours, si je continue à rencontrer le maximum d'électeurs. C'est une circonscription qui s'est jouée par environ 1300 votes en 2008. Donc, on parle vraiment d'un des comtés parmi les plus serrés au Québec. Et je pense que les gens là-bas, comme dans beaucoup de circonscriptions québécoises, sont prêts à du changement, sont prêts à faire confiance à des politiciens qui veulent faire une politique un peu plus jeune, un peu différente. Et oui, donc je crois que j'ai de très bonnes chances, mais il ne faut rien prendre pour acquis. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est la passion et le travail.
Effectivement. Et d'ailleurs, bon, en feuilletant les fils de nouvelles, donc le 25 juillet dernier, la presse publiait que M. Paquette ne souhaite pas que la campagne dans Laval-des-Rapides devienne un conflit de génération avec son adversaire de 20 ans. Que pensez-vous de cette tactique camouflée pour mettre de l'emphase sur votre âge?
Ben, c'est dommage, je crois, d'attaquer entre autres les jeunes qui font le saut en politique. Je pense que si on veut que les jeunes participent, on parlait des pourcentages de participation aux élections, il faut leur laisser une place à l'Assemblée nationale. Et mon objectif, c'est pas de diviser les générations, au contraire, c'est de les rassembler. Ceux qui divisent les générations, j'ai l'impression en ce moment, c'est beaucoup les libéraux qui essaient d'opposer les jeunes aux plus âgés en disant non, mais si on donne des choses aux jeunes, il va falloir qu'on vienne couper dans vos retraites ou qu'on augmente les impôts de la classe moyenne, alors que l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est pas d'augmenter le fardeau fiscal des familles de la classe moyenne. L'objectif, au contraire, c'est de s'assurer que l'éducation au Québec reste abordable, qu'on a un maximum de diplômés, puis que ces gens-là vont pouvoir payer pour la santé, pour les garderies de tout le monde. Donc, je trouve que c'est un peu simpliste, des fois, d'opposer les jeunes au lieu.
Oui, c'est en fait les autres candidats qui se présentent dans votre comté, dans le même comté que vous, dans la Vallée Rapide. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'on est habituellement tendance à entendre généralement, comme régulièrement, des attaques, en fait, des attaques ad hominem envers les autres candidats. C'est une politique un petit peu sale au Québec, puis j'aimerais ça qu'on puisse briser ça un peu. Qu'est-ce que vous croyez que ces gens-là pourraient dire de positif de vous? Si on leur demandait.
Ah, ben écoutez, on mène quand même jusqu'à présent une campagne assez respectueuse dans la circonscription de la Val-des-Rapides et je pense que les autres candidats vont être capables de reconnaître que j'agis d'une manière qui est intègre, qui est honnête, pour rehausser le niveau de débat et j'espère que ça va être un sentiment qui est partagé, hein, parce que l'objectif, c'est de faire une campagne d'idées et que les gens puissent choisir non pas le candidat le moins pire, mais bien le candidat qui incarne le Québec qui le ressemble le plus.
Effectivement. Donc, avant de terminer cette entrevue, M. Bureau-Blouin, nous avons une question de Mme Doré de Laval-des-Rapides qui vous demande, avec Gabriel Nadeau-Dubois qui a annoncé sa démission hier, ainsi que Camille Robert qui stipule être mal à l'aise avec votre position sur la grève étudiante, en fait sur la trêve que vous avez demandé, suggéré que les étudiants pourraient faire. Alors, quelle serait votre stratégie pour regagner la confiance de la nouvelle leader de la classe?
Ben, l'objectif, je pense qu'on mérite la confiance en posant des gestes et si le gouvernement du Parti québécois est élu, dans les 100 premiers jours, le parti s'est engagé à annuler l'augmentation des droits de scolarité, annuler le spécial, tenir un sommet. Je pense que ça, c'est quand même un geste fort qui vise à démontrer aux étudiants et à l'ensemble de la population qu'on veut régler la crise. Donc moi, je pense que les gens pourront juger au résultat.
Excellent. Et pour conclure notre entrevue, comme vous savez, bon, Radio H2O, c'est une plateforme de discussion que tout peut être dit sans censure. Avec les médias de masse, ben, vous le savez, des fois, c'est toujours difficile des fois d'en apprendre un peu plus sur un parti ou sur un candidat. Donc, j'aimerais peut-être vous laisser les dernières minutes, si vous voulez, librement, si vous voulez exprimer ou nous dire quelque chose pour conclure notre entrevue.
Oui, ben, tout d'abord, mon message principal est d'inciter l'ensemble de la population et notamment les jeunes à se présenter massivement aux urnes le 4 septembre, au-delà de la partisanerie du parti politique qui sera élu. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la désaffectation des institutions démocratiques. Et je pense que c'est important de s'approprier les campagnes électorales et de s'informer, que ce soit à travers les différents sites Internet des partis politiques ou encore à travers la télévision et les débats des chefs qui auront lieu au courant des prochains jours. Pour ma part, j'ai mis en ligne un site web qui est mon nom, leobureaublouin.com, où les gens peuvent comprendre mes engagements qui vont apparaître progressivement au courant de la campagne électorale. J'ai notamment proposé de mettre sur pied une plateforme web de consultation citoyenne qui va permettre aux gens d'interagir avec les députés, de proposer, de voter. Et je pense que c'est le genre de choses qui permettent de faire entrer la politique dans le 21e siècle et de montrer aux électeurs qu'on les estime. Mais au-delà de tout ça, mon objectif et ce que je souhaite, c'est qu'on rehausse le taux de participation.
Oui, parfait.
C'est excellent. Écoutez, merci beaucoup, M. Bureau-Blouin. Merci d'avoir partagé le temps avec nous. C'est très apprécié. D'ailleurs, pour tous ceux et celles qui voudront réécouter cet enregistrement-là, ça sera disponible sur le site de radioh2o.ca, bien entendu. Donc, M. Léo Bureau-Blouin se présente comme candidat péquiste dans Laval-des-Rapides pour les élections du 4 septembre prochain. Merci, Daniel, pour ta participation aussi. C'est quand même très apprécié. Et quant à nous, ben, on vous dit, on sera de retour après la pause, donc ne quittez surtout pas.
L'émission du H2O Show vous est présentée en simultané sur les ondes de Radio Lower 24/7, Radio La Salle 100,1 FM et Radio H2O.